vient d'écouter de Bernard Lake avec Disaster, et avant c'était Gosplin avec Misty Time, et encore avant c'était Calexico avec Minas de Cobre.
Télévision le soir quand vous rentrez exténué du travail, que vous l'allumez nonchalamment pour vous détendre les méninges, à la radio, dans la voiture, à chacun de vos déplacements, dans les commerces en fond sonore, dans certains bistrots ou même au travail, dans les journaux que vous voyez partout, sur les affiches, dans les rues, sur les étalages et même parfois dans les pubs. Ils sont le fond sonore et visuel de nos vies, le fil rouge, la brise qui nous souffle dans le cou tout au long de la journée de manière a priori négligeable, mais qui finit tout de même par nous rendre malades. Ils sont le brouillard épais qui nous laisse imaginer qu'il ne pleut pas, mais qui, lorsque l'on passe du temps en son sein, finit par rendre nos vêtements mouillés et nous donne la goutte au nez. Ils véhiculent des idées, des analyses, des modes de pensée, un paradigme, des points de vue, des mœurs, des normes, des bienséances, des idéologies, avec l'appui d'un petit nombre de personnes autoproclamées experts dans leur domaine. Experts que l'on présente toujours sous leur titre universitaire, sans jamais préciser le nombre d'intérêts financiers qu'ils ont ici et là. Il véhicule tous ces éléments qui, quoi que l'on veut bien t'en penser, infusent en nous. Quelle que soit notre capacité et nos prédispositions à l'autodéfense intellectuelle, nous sommes tous atteints par ce murmure permanent. Gardons le statu quo. Serrez-vous la ceinture. L'économie doit être au centre de tout. Le profit doit être le tenant et l'aboutissant de chaque acte dans la société. Mettez-vous au boulot ou les Chinois vont vous le prendre. Peut-être devrait-on songer à refonder ce moustique malveillant. J'ai perdu un peu le fil. Peut-être devrait-on songer à refonder ce moustique malveillant qui bourdonne à nos oreilles en permanence, qui tente de parasiter nos perceptions des possibles, et surtout qui tente de nous imposer des œillères et des lieux communs, ce qui par conséquent ampute par omission notre liberté de réflexion sur le monde, la vie, la société et ce que nous pourrions et nous voulerions en faire. Mais comme le reconstruire est pour le moment impossible, apprenons déjà qui il est pour trier les infos qu'il nous donne ou ne nous donne pas.
What is right and what is wrong?
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait service dans des restos, qui esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir et bienvenue dans cette émission des yeux grands ouverts sur Radio Canu 102.2 FM à Lyon. Alors je vous prie de m'excuser pour la première partie là parce que j'étais un peu en panique. En fait, il s'est passé quelque chose d'un peu étrange, c'est tout simplement que j'avais pas le bon casque sur les oreilles. Alors en fait, j'avais mis une petite intro, une petite musique d'ambiance, une espèce de nappe derrière qui était bien jolie, que j'appréciais bien. Et en fin de compte, ben comme je l'entendais pas, je me suis un peu mis à paniquer et ça allait pas trop bien. Donc on va essayer de rattraper le coup. Voilà. Ben voilà, là ça marche, là j'entends tout, tout se passe bien. Alors, ce soir, c'est la rentrée, des yeux grands ouverts. Hein, on a pris des petites vacances, nous aussi on a le droit. Et ce soir, le sujet que nous allons aborder, c'est les médias. Alors c'est pour ça que j'avais fait cette petite intro où je racontais un petit peu, en essayant de donner un côté un peu plus poétique à tout ça, l'influence que peuvent avoir les médias sur nous au quotidien. On se rend pas forcément compte qu'ils sont là, mais en fin de compte, ils sont là tout le temps, ils nous donnent des avis, même si on croit qu'à certains moments, ils essayent de nous expliquer les différents avis et nous laisser le choix de trier. On se rend compte que c'est pas forcément vrai. On va essayer d'étudier d'ailleurs un peu ça, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission. L'objectif, c'est pas de dire à tout le monde et d'essayer de faire croire, de basculer dans une espèce de théorie du complot où les médias sont tous pourris jusqu'à la moelle ou je sais pas quoi. L'objectif, c'est juste de dire aux gens, parce qu'aux dents, ça n'a aucun sens, attention, quand vous écoutez les médias, vous avez pas forcément l'impression qu'il y a une espèce de censure pernicieuse qui se met en place, mais elle peut être là et elle est vicieuse. Même les protagonistes, genre les journalistes ou même les personnes qui sont interviewées, se rendent pas forcément compte, mais il y a une forme d'autocensure et les structures qui sont faites sont construites en sorte que à certains moments on puisse pas aborder certains sujets, ou alors on le peut mais très difficilement. Il y a des grands auteurs d'ailleurs qui sont attaqués un peu à ce sujet-là. Moi, je sais que personnellement, j'ai deux références là-dessus. C'est Noam Chomsky, un intellectuel américain, qui a réalisé, je sais pas si c'est lui qui l'a réalisé d'ailleurs, mais en tout cas, un film a été tourné sur lui qui s'appelle La Fabrique du Consentement, où il explique un peu, bon, alors là, c'est plus pour le côté américain, donc c'est un peu différent, la vision n'est pas tout à fait la même. Même si au final, on retrouve un peu les mêmes problématiques, hein, le fait que les médias soient privés, etc. Il explique un peu comment il pense que la censure se met en place sans que les gens s'en aperçoivent et que les gens eux-mêmes qui sont les acteurs de ces médias, enfin, au final, n'ont pas l'impression d'être bloqués par quelque chose ou censurés. Ils ont l'impression réellement d'être libres et sont honnêtes. Et il essaie de décrypter tous les mécanismes, comment d'une manière on va cacher quelque chose, pas forcément en le cachant volontairement, mais en montrant un aspect qui fait qu'on ne comprend pas totalement ce que veulent dire les gens. Après, il y a un autre auteur qui a été très très remarqué là-dessus aussi, c'est Pierre Bourdieu. Il a écrit juste un tout petit livre qui s'appelle Sur la télévision d'ailleurs. Il a même fait une conférence qui doit être trouvable sur internet, sur Paris Première, au Collège de France, où il parle de la télévision, ça doit durer une heure. C'est un petit peu lourd, c'est de la sociologie, c'est des intellectuels, hein. Mais ça peut être intéressant pour certaines personnes d'écouter ce que ces gens-là ont à dire pour arriver à comprendre le mécanisme des médias. Alors, c'est voilà, donc j'ai décidé de mettre une petite nappe dans l'émission maintenant derrière. On verra, on essaiera de tester des trucs différents. J'espère que c'est pas trop fort, qu'on m'entend plutôt bien. Alors, nous allons commencer. Tout d'abord, à l'accoutumée, comme à l'accoutumée, hein, qu'on va parler des médias ce soir, on va essayer d'en donner une petite définition. Alors, les médias, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on appelle médias, c'est en réalité les moyens de diffusion, qu'ils soient naturels, comme l'écriture, le langage ou l'affichage, ou qu'ils soient techniques, par exemple, comme ce que je suis en train de faire maintenant, la radio, ou alors la télévision, internet ou le cinéma. Alors, dans cette modeste émission, on va aujourd'hui plus s'attarder sur les médias qu'on pourrait appeler les médias techniques et de masse, hein, parce que j'ai pas spécialement envie d'essayer de décrypter le langage, je suis pas linguiste, l'affichage, la publicité, c'est un sujet beaucoup trop large, on peut pas s'attarder là-dessus. Et l'écriture, eh ben, c'est très très compliqué aussi, c'est juste un moyen de communication, même s'il peut y avoir des formes de censure et des manipulations dans la manière d'écrire les mots, ça aussi on pourra en parler plus tard. Donc c'est juste essayer de mettre en place une espèce d'autodéfense intellectuelle, que les gens aient conscience de ce qui se passe un peu dans les médias, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Alors, on va parler des médias de masse, comme je disais. Et l'émission, elle va se décliner en plusieurs parties. D'abord, premièrement, on va essayer de parler du financement des médias, les contraintes qui peuvent les accabler. Puis ensuite, on parlera et on déclinera ça petit à petit par des différentes illustrations, le manque de pluralité ou les fausses contradictions qu'il y a dans les médias, ou même les monopoles qui peuvent exister. Tout d'abord, pour comprendre ce qu'est tout cela, il faut appréhender par qui ces médias sont dirigés et par qui ils sont financés aussi. C'est pas tomber dans la paranoïa que de se demander qui dirige quoi et comment. Les conflits d'intérêts existent évidemment, et même dans les médias, comprendre et savoir lesquels ils peuvent être et la manière dont ils peuvent prendre forme, ça permet de mieux comprendre et admettre les rapports de force au sein du quatrième pouvoir. C'est les médias qu'on appelle le quatrième pouvoir. Et ça permet aussi d'aiguiser son sens critique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que Noam Chomsky appelle l'autodéfense intellectuelle. Alors, qui dirige son journal, la personne, en tout cas qui dirige son journal, ou même sa chaîne de télé ou sa radio, a bien entendu un pouvoir sur sa ligne éditoriale. Je vais remettre un peu de musique. Quand je parle de ligne éditoriale, je veux bien sûr parler d'orientation politique. En caricaturant, le média, en fonction de la personne à qui il appartient, il va être de droite ou de gauche, il va être libéral ou libertaire, etc. De la même manière que n'importe quel patron a un droit sur vous ou votre travail, le travail que vous effectuez dans une entreprise lambda. Je vais citer un peu un exemple, hein, parce qu'en fin de compte, les médias modernes, privés, sont des entreprises à part entière. Si par exemple votre patron, vous imaginez que vous soyez commercial, il vous dit j'ai décidé que tu vendras pas à cette personne. Du coup vous le faites, vous ne vendez pas à cette personne. Ou alors non, tu n'accordes pas cette réduction, ça m'intéresse pas. Ou alors non, tu n'iras pas vendre dans ce secteur, toi tu vas aller vendre plus là-bas. Ou tiens, le matin il faut que tu arrives à telle heure, etc. Bien vous lui obéirez, car vous êtes lié par votre contrat de travail, un lien de subordination à votre employeur. C'est d'ailleurs le seul endroit dans le pays où on n'est pas égal avec une autre personne. Dans une entreprise, on est contraint par un lien de subordination avec l'employeur. On doit y exécuter ses requêtes dans le cadre du respect du code du travail, bien sûr, et des conventions collectives. Et il vous donne des consignes, il faut venir, comme je disais tout à l'heure, et même juridiquement responsable de vous si jamais il se passe quelque chose, ou presque, vu les modifications du code du travail, parce qu'il y en a eu quelques-unes dernièrement. Certains pourraient m'objecter que dans certains grands médias, le patron est trop loin physiquement pour avoir un pouvoir sur la ligne éditoriale ou même une influence, mais on peut penser en partie que c'est vrai, alors que cela ne l'est pas toujours. Mais le pouvoir du capital, en fait, il ne s'incarne pas que dans une personne matérielle faite de chair et de sang, celle qui est représentée par le chef d'entreprise. Ce pouvoir est plus diffus, mais surtout il s'exerce en cascade sur tous les subordonnés, c'est-à-dire il y a une personne tout en haut qui a autorité sur celle d'en dessous, et pareil pour celle d'en dessous, qui a autorité sur celle d'encore en dessous, etc. etc. Donc la pression s'exerce en cascade. Même si a priori le patron dans les médias est... c'est un patron PDG, hein, donc c'est pas à lui qu'appartient tous les médias, il est tout de même désigné par des actionnaires et un conseil d'administration qui a évidemment un pouvoir sur ses décisions. Nous allons donner quelques des exemples, par exemple des détenteurs divers du PAF français aujourd'hui, pour comprendre les lignes éditoriales des journaux ou de diverses radios. Attardons-nous sur les principaux d'entre eux. Commençons par les radios qu'on appelle généralistes, vouées à l'information, au service et au divertissement. On commence par France Inter, donc Radio France et le dirigeant. Radio France, c'est dirigé à l'État par l'État à 100%. C'est une radio dite de service public. Elle est financée par la redevance télé dont nous acquittons lors de notre taxe d'habitation. Vous et moi, quand vous recevez votre taxe d'habitation, en dessous c'est marqué, il y a la petite ligne en plus, 120 et quelques euros là, qui fait 1. Et ben, c'est comme ça qu'on finance les médias publics. Ça garantit, a priori, une autonomie vis-à-vis du pouvoir économique, c'est-à-dire la pub et les gros annonceurs, etc. Et aussi, ça permet une indépendance par rapport au monde financier qui ne peut pas exercer de pression, a priori, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, certaines multinationales exercent des pressions en refusant de rémunérer des radios, en refusant de leur vendre de la pub, de les payer pour de la pub. Et ce qui fait qu'au final, certaines radios qui ne touchent pas de subventions ou qui n'ont pas d'abonnement pour leurs auditeurs, et ben, elles finissent par plus avoir d'argent, elles sont coincées. Elles ne peuvent pas survivre. Là où c'est plus complexe et ambigu pour les radios publiques, donc le financement est totalement indépendant, mais c'est par rapport au pouvoir politique. Normalement, j'ai bien dit normalement, les structures garantissent une indépendance totale, sauf quand, bien entendu, le président de l'audiovisuel public est nommé directement par le président de la République. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dernièrement sous Nicolas Sarkozy. Forcément, ce dernier nomme un de ses amis, en fait, qui veille et protège ses intérêts. Ce PDG de l'audiovisuel public nomme un directeur pour chaque radio de Radio France, donc France Inter, France Culture, etc. Pour expliquer comme ça s'était déroulé à l'époque, on s'est retrouvé avec Jean Lucas, qui avait été nommé par Sarkozy, donc il était patron de Radio France. Lui-même, il a désigné dans la foulée un directeur pour France Inter, c'était Philippe Val. Et quelques mois plus tard, quand Didier Porte et Stéphane Guillon ont un petit peu dérapé, enfin... Val a considéré qu'ils avaient dérapé, mais bon, ça, c'est sujet à débat. Donc finalement, ils ont été débarqués de l'antenne quelques mois plus tard à cause de leurs propos. Normalement, quand ça se déroule normalement, c'est 9 membres du CSA qui désignent le président de Radio France. Bah, qu'ils ne soient pas impartial non plus, puisqu'ils sont tous nommés en fait par les présidents des différents pouvoirs. Donc il y a 3 personnes qui sont nommées par le président de la République, 3 par l'Assemblée nationale, 3 par celui de l'Assemblée nationale et 3 par celui du Sénat. Donc le pouvoir politique, en fait, il a toujours une influence qui peut être un peu diffuse sur l'audiovisuel public en fonction de la majorité. Par exemple, si le Sénat, la majorité est à droite et l'Assemblée nationale à gauche, bon, au final, avec le CSA, ça fait une espèce d'équilibre. Mais si jamais, par exemple, comme en ce moment, le PS a la majorité sur tout, l'Assemblée nationale, le Sénat et le président de la République, il est du PS, et ben en fait, ils ont la main mise sur l'audiovisuel public. Il y a je parlais de l'audiovisuel public. Il y a d'autres statuts qui existent. Donc ce sont les radios privées associatives, donc comme la radio de votre serviteur, Radio Canu. Elle est financée par une subvention qui s'appelle FSER. C'est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. La condition à remplir pour obtenir cette subvention, c'est qu'il faut garantir à l'État que les revenus générés par la radio ne dépassent pas, qui générés par la radio ne sont pas, la pub ne dépasse pas 20% du chiffre d'affaires dans l'argent qui est encaissé par la radio. J'espère que j'ai été clair parce que je me suis un peu embrouillé là. Donc en fait, il y a un chiffre d'affaires. S'il n'y a pas plus de 20% de chiffre d'affaires qui est généré par la pub, l'État il dit banco, on vous donne cette subvention. Donc elle est redistribuée par l'État. Jusqu'à 2009, elle était financée en fait par une taxe sur les publicités. Les publicités qui étaient diffusées dans les différents médias. En fait, quand un annonceur lambda, il arrivait pour faire vendre, je sais pas, n'importe quel produit, j'ai même pas envie de dire non, il donnait de l'argent à la radio, et sur l'argent qu'il donnait à la radio, il y avait une petite taxe qui était prélevée et qui allait donc financer toutes ces petites subventions pour les radios associatives. Aujourd'hui, c'est prélevé directement dans le budget de l'État. Donc c'est depuis 2009 que c'est plus le cas. Donc c'est sous Sarkozy que ça a été fait. C'est-à-dire que ça peut être vos impôts ou n'importe quoi, ou la TVA ou je ne sais quoi, qui est accaparé pour pouvoir financer les médias libres associatifs. ça permet donc de forcément une indépendance et une liberté. C'est pour ça que ça m'offre l'opportunité de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de parler de ce que je veux, de la manière dont je veux, à condition d'éviter de faire de la pub. C'est pour ça que j'essaie d'éviter de donner des noms, même si à certains moments on ne peut pas forcément éviter. Mais bien sûr, la seule condition qui pourrait m'interdire de faire ce que je fais, c'est de tomber sous le coup de la loi. Si par exemple, je sais pas, je faisais un appel au meurtre ou j'en sais rien d'autre, forcément là ça pourrait plus marcher. Et je suis désolé, hein, c'est un peu lourd et c'est très technique, mais c'est important de tout comprendre, les structures des médias pour pouvoir avancer sur le sujet. Dans la suite de l'émission, on entrera plus dans le vif du sujet en parlant de ce qui se dit dans les médias, et ce sera un peu plus amusant, j'irai pas jusque là, mais ce sera plus parlant et plus explicite et moins lourd, quoi. Mais malheureusement, je pensais que c'était important de préciser que ça se déroulait ainsi dans les médias et que la structure était faite comme ça. Alors, pour la suite, alors maintenant, on va passer aux radios privées, ce qu'on appelle les radios commerciales. Ce sont des gros groupes, souvent, mais aussi et surtout, ils sont financés par la publicité ou même par les grands groupes qui les possèdent au final. Ils font ce qu'ils veulent avec leur budget. Et donc, grâce à la publicité, ça leur permet de dégager des bénéfices. On va prendre un exemple, la radio commerciale généraliste Europe 1. Pour ce qui est de sa propriété, elle appartient à 100% au groupe Lagardère Active. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Lagardère, ceux qui sont un peu initiés doivent certainement connaître, qui avait des parts dans EADS à une certaine période, etc. C'est un groupe qui est spécialisé dans les médias et qui possède plein de chaînes, donc des radios, etc. Donc je vais un peu vous expliquer. Dans la radio, ils possèdent RFM Virgin. À la télé, ils ont MCM, toutes ses filiales, hein, Top, Pop, etc. Là. La chaîne Mezzo, des chaînes que je connais absolument pas. Canal J, TJ, June, Gulli, Virgin Radio TV. Sans compter toutes les chaînes qui ont disparu. Et encore, là, je vous fais fi de tous les noms de chaînes qui existent, parce que je ne vais pas passer ma soirée à ça. Ils ont aussi des boîtes de production, dont celle de Feu Jean-Luc Delarue. Ils en ont environ 20 boîtes de prod. Ils ont également beaucoup de journaux et de magazines, Elle, Paris Match, Public, France Dimanche, Ici Paris, Le JDD, mais aussi des sites internet, boursier.com, Doctissimo, Sports.fr, des tas d'applications aussi pour les téléphones, mais je ne vais pas m'amuser à tout détailler, comme je vous expliquais. Donc le groupe Lagardère Active, il est lui-même possédé en gros une majorité par ce que certains nomment des investisseurs institutionnels, terme euphémisant, car en fait il s'agit de en réalité du monde de la finance. Un investisseur institutionnel, c'est en fait un financier. C'était les ennemis du président de la République, je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous savez, ceux qui n'ont pas de visage, là, tout ça, là, on se rappelle à peu près. Pourtant, ils connaissent très bien leur visage, en fait. Mais bref, on va faire redescendre la température, quand même. J'entends par monde de la finance les fonds de pension, les banques, les assurances, les organismes de placement collectif en valeur immobilière. Donc, ils possèdent une bonne partie du capital de Lagardère. 65% de ces investisseurs financiers sont étrangers, 15% sont français. Le reste, c'est tout détenu par le groupe Lagardère Capital, qui est une filiale du groupe, ou une société écran, hein, je sais pas comment ils se sont débrouillés, hein, s'ils font leur petite popote, hein, on fait comme on veut. Et sinon, après, tout ce qui reste, la part du capital qui reste, c'est des actionnaires individuels qui sont un peu éparpillés. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, groupe Lagardère qui avait des parts dans EADS il y a quelques années, ils les ont revendues, mais qui avait été soupçonné un peu dans l'affaire des délits d'initiés, qui avait fait scandale pour la fabrication de, je ne sais plus le modèle d'avion, c'était la 380, il me semble. Je donne l'exemple d'Europe 1 parce que pour moi, je trouve que c'est le plus criant, mais c'est aussi un peu le plus opaque. On voit qu'il y a des financements dans tous les sens et on a un peu du mal à discerner ce qui se passe là-bas derrière. Mais je vais évoquer aussi grossièrement d'autres radios. Donc il y a RTL aussi, qui est la première radio en France, c'est qui est la plus écoutée. Elle est détenue par le groupe RTL Group, qui est une société luxembourgeoise de radio et de télédiffusion, elle-même possédée à 75% par un groupe allemand nommé Bertelsmann. Voilà, j'ai un peu du mal avec l'allemand, excusez-moi. Donc RTL Group qui possède aussi plein de chaînes et plein de radios, M6, W9, RTL2, Paris Première, Teva, Série Club et j'en passe, hein. Je ne vais pas m'amuser à tout relister non plus. Et ils ont aussi énormément de chaînes en Europe, puisque c'est pas un groupe français, donc forcément ils sont un peu dans toute l'Europe et pas mal en Allemagne, etc. Voilà, on va pas rentrer trop dans les détails. Je vous situe un peu l'histoire, l'environnement médiatique des radios privées, le milieu financier, donc on voit il y est très très impliqué, et la mainmise de chacun des groupes, de plein de groupes, en fait ils ont plein de médias divers un peu de partout. Ceci doit donc mener à la prudence et à l'esprit critique. Quand on nous assène à longueur de journée que la concurrence est garante de la liberté des médias, on s'aperçoit, quand on commence à éplucher avec précision la nature des groupes qui financent les médias, que d'une part ce sont de très grands groupes qui baignent dans la finance jusqu'au cou, mais surtout que chaque groupe possède énormément de chaînes chaînes de diffusion, que ce soit par radio ou par télé interposée, ce qui favorise forcément la consanguinité, excusez-moi du terme, du champ journalistique. J'entends par là que donc, c'est son manque de pluralité. Et après tout, chacun fait ce qu'il veut, pour le reste, on s'en fout. Maintenant, j'aimerais vous diffuser un petit documentaire audio, enfin un documentaire, je dirais pas jusque-là, un passage d'un documentaire que j'ai attrapé dans le film qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. C'est un film de Gilles Balbastre et de Yannick Kergoth, voilà, j'espère que je le prononce bien, que je vous recommande d'ailleurs très très chaudement ce film. C'est un excellent film sur le déroulement et la façon dont les médias transmettent l'information. Donc ce film est une référence, enfin comment on pourrait expliquer ça, c'est en hommage que ce film a été fait au livre de Serge Halimi qui s'appelait Les Nouveaux Chiens de Garde. Mais Serge Halimi avait fait ce bouquin Les Nouveaux Chiens de Garde lui aussi en hommage à un autre livre qui s'appelait Les Chiens de Garde, et celui-là avait été écrit par Paul Nizan, je crois que c'était dans les années 30, je me rappelle plus exactement quand. Alors ce petit passage commence par la fin de l'interview d'Alain Perfitte. Alain Perfitte qui était ministre de l'information dans les années 60 et qui se permettait de venir s'inviter au journal et pour expliquer en fait les nouvelles formes qu'allaient prendre les journaux télé, comment ils allaient s'organiser, etc. Et donc c'est une situation qui a plus de 50 ans. Puis par la suite, ce documentaire illustre en fait que la prétendue concurrence entre les médias, vertu affichée comme grande garante de la pluralité, est parfois une grosse arnaque. Avec le cas donc qui est mis en avant d'un éditorialiste qui est très connu pour ceux qui aiment un peu la politique et qui s'y intéressent, c'est Alain Duhamel. Alors je vais essayer de faire l'enchaînement proprement, avec la musique qui tourne et tout ça. Allez, c'est parti.
Mais on aura recours, le plus souvent possible, à des débats contradictoires auxquels les diverses tendances seront associées de manière à respecter la liberté d'information et d'opinion de tous les Français. Voilà, à l'avenir...
On peut sourire d'entendre Alain Perfitte défendre le pluralisme des opinions au moment même où il vient imposer les transformations du journal télévisé voulu par son gouvernement. 50 ans plus tard, c'est toujours et encore en rappelant cette époque que les journalistes glorifient le pluralisme qui régnerait aujourd'hui dans les médias.
On a parlé des années de Gaulle, des années du ministre de l'Information. Il y avait à l'époque un ministre de l'Information. Vous me direz qu'aujourd'hui, il y a toujours un ministre de la Culture et de la Communication. Ça n'a pas changé. Il n'a pas autant d'importance qu'à l'époque.
Non. 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 Et tant mieux. Aujourd'hui... il y a quelque chose qu'ils ne peuvent plus surmonter, qui est qu'il y a une concurrence. Quand on a commencé, il y avait deux chaînes. Oui. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Et aujourd'hui, il y a Internet. Donc, rien ne peut plus être dissimulé durablement. Il y a toujours de la concurrence. Et donc, de toute façon, il y a une logique, je dirais, mécanique qui fait que l'indépendance est réelle. Aujourd'hui plus importante qu'hier. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que, Dieu merci, la concurrence l'a imposé et est une nécessité pour l'information.
Bon. Pour Alain Duhamel, comme pour une large partie de la profession, la concurrence est le modèle idéal qui garantit définitivement l'indépendance des journalistes. Mais il n'est pas surprenant qu'Alain Duhamel parle le marché de l'information de toutes les vertus. Il est en effet de ceux qui ont su le mieux profiter des opportunités offertes par la multiplication des canaux d'information. Alain Duhamel a débuté à l'ORTF à l'époque où Alain Perfitte s'invitait au journal télévisé. En parallèle d'une carrière d'inoxydable intervieweur de chef d'État, il illustrera le pluralisme de l'information d'une manière toute personnelle. Au début des années 2000, il vend ainsi ses éditoriaux dans pas moins de 10 médias en même temps. France 2, Canal+, RTL, Libération, Le Point, Nice Matin, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Maine Libre, Le Courrier de l'Ouest, Presse Océan. Il est bien normal qu'Alain Duhamel ne morde pas la main du marché qu'il a si bien nourri.
Et voici le petit documentaire qui est issu des Nouveaux Chiens de Garde. Je fais une petite parenthèse de 2 secondes. Je sais que c'est pas forcément évident de rester accroché à ce genre d'émission parce que je parle vite, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je pense que j'essaye de d'expliquer aux gens le ressenti et les petites recherches que j'ai fait de mon côté pour différents sujets, par exemple là en l'occurrence c'est les médias. Donc c'est très technique, je comprends qu'à des moments ça doit être très très lourd, il faut arriver à suivre du début à la fin, c'est pas forcément évident. Après il y aura un petit billet d'humeur plus sympa à la fin, plus léger pour détendre un peu l'atmosphère. Mais j'espère en tout cas que comme je le fais, comme j'essaye de mettre en place l'émission, ça c'est pas trop lourd à porter, c'est pas trop lourd à supporter pardon et à écouter. Parce que en fait le problème c'est que quand on commence à faire des médias ou des émissions où on veut expliquer des sujets en profondeur, ça devient vite lourd à écouter. C'est pour ça que ça me rappelle François Ruffin, qui est un des éditorialistes du Monde Diplomatique, qui expliquait pour la concurrence, ce qui serait bien, c'est que dans les radios ou dans les télés, en l'occurrence, il y ait une chaîne qui soit une chaîne de télé de gauche, par exemple. Mais le problème c'est que si on voulait faire une télé de gauche, ce serait difficile de ne pas être chiant. Parce qu'on veut rentrer dans les détails et forcément c'est un peu lourd à supporter pour vous. Donc j'espère que comme je le mets en forme, ça vous va. Après sinon, comme j'expliquais lors des dernières émissions, mais je vais peut-être le redire, il y a une boîte mail qui s'appelle lesyeuxgrandsouverts@laposte.net. Donc vous faites circuler les mails. Si jamais vous avez des petites recommandations ou même un avis à faire partager sur la manière dont se déroule l'émission, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Et puis voilà, donc ça me ferait plaisir que certaines personnes donnent leur avis par rapport à la manière dont se déroule l'émission. On va reprendre le sujet duquel j'étais en train de parler. On va essayer de ne pas être trop lourd, mais il va falloir quand même un peu rentrer dans les détails. Donc on a entendu Monsieur Alain Duhamel expliquer que la concurrence garantissait la liberté des médias et que forcément plus rien n'était dissimulé. C'est une sacrée blague, mais c'est un sacré blagueur lui. Donc on peut explicitement voir que cette belle personne qui prétend que la concurrence égale forcément pluralité le dit tout simplement en fait parce qu'il profite de toute cette concurrence pour vendre des éditos un peu de partout. L'analyse que j'en fais, moi personnellement, donc je vous demande... Pour quelle raison? Certainement, vous devez vous demander aussi. Évidemment, parce que c'est plus lucratif pour lui. Hein, c'est comme c'était expliqué dans le petit document. Donc cet homme donne son avis, qui est toujours le même, puisque c'est un éditorialiste. Donc forcément, quand il écrit les papiers, c'est subjectivement. Il donne son avis à plein de médias. Et donc forcément, il ne risque pas de cracher dans la soupe. C'était ce qui était expliqué dans le documentaire. Mais l'autre question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi tous ces journaux se battent pour obtenir des éditoriaux d'Alain Duhamel. Au final, ils pourraient se dire, bon, bah, Alain Duhamel, il est bien gentil, mais il est là depuis 40 ans, on s'en fout, quoi. C'est vrai qu'il squatte un peu les interviews de président de la République depuis, c'est même pas 40, je crois que c'est même 50 ans. Au bout d'un moment, les médias devraient lui dire, bon, bah, t'es gentil, garçon, mais tu nous saoules, on a besoin de renouveler nos journalistes, quoi. Et bien tout simplement car je pense après que pour la plupart d'entre eux ils souffrent d'un mal profond qui est vanté d'ailleurs par Alain Duhamel, et ce mal ça s'appelle la concurrence. Je m'explique parce que certains vont croire que je caricature. Je finis. L'objectif d'un journal privé commercial, c'est bien entendu de vendre le plus possible d'exemplaires de son journal. Il doit donc se battre sur un marché qui s'appelle le marché de l'information. Il essaye d'avoir des avantages concurrentiels. Cette chose donc qui devrait être vital pour tous les citoyens, cette chose qu'on appelle l'information, ça devrait être vital parce que grâce à ça, les gens peuvent juger et voter en conséquence de ce qu'ils jugent, c'est devenu un marché. Par conséquent, le journal local ou même national qui veut vendre mieux et écraser les concurrents, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher donc les avantages concurrentiels, comme je disais, qui peuvent être de commander soit un éditorial à un journaliste énormément exposé médiatiquement, et réputé, et pas forcément d'ailleurs pertinent, mais qui peut être réputé juste pour sa longévité. C'est ce qui se passe avec Alain Duhamel. Parce qu'en effet, les vieilles générations connaissent cet homme depuis plus de 50 ans, et comme elles sont plus empreintes à lire la presse écrite, car les jeunes lisent beaucoup moins les journaux que les anciens ne le faisaient, eh bien dans ces cas-là, on va aller chercher un vieil éditorialiste, un personnage qui est familier, pour que les vieilles personnes, je me comprends, les gens qui achètent les journaux et qui sont habitués à entendre ou à voir cette personne aient envie d'aller acheter. C'est encore un bon exemple de pluralité, ça d'ailleurs, hein, c'est que les mêmes personnages sont sur la scène depuis au moins 40 ans, ou même 50, ou même plus dans certains cas, peut-être plus, c'est quand même plus compliqué. On reprendra sur cette même idée, hein, la récurrence de certains hommes de médias, après ce petit morceau qui, selon moi, tombe à pic. C'est un morceau de Renaud. Il nous parle de sa perception des médias, il nous invite à être plus attentifs à ce qui est juste à côté de nous, plutôt que de se laisser capter et envahir par les médias de masse et par leurs infos qui sont aussi énormément anxiogènes à certains moments. Cette chanson, elle s'appelle L'Aquarium, elle est issue de l'album Marchand de cailloux de Renaud. Et moi je trouve qu'au niveau de l'illustration de ce que sont les médias aujourd'hui, on est vraiment, enfin, de l'attitude qu'on peut avoir par rapport aux médias, parce qu'au final ils parlent pas vraiment des médias, si ce n'est qu'ils les taclent un peu. Je trouve que c'est assez explicite. Plutôt que d'allumer la télé et de la regarder bêtement, regarde la personne qui est assise juste à côté de toi sur le canapé et écoute ce qu'elle a à te dire.
Après la guerre, j'ai balancé ma télé par la fenêtre. Comme je suis un garçon primaire, je me suis dit un militaire. Avec un peu de bol, cela mange en pleine tête. Libérés, enfin mes yeux, on regardait scaphandrier de l'aquarium, qui cherche un trésor planqué sous les cailloux bariolés. Pauvre bonhomme, énervé par France Intox, les FM et les jukebox, j'ai balancé ma radio par la fenêtre, en priant pour qu'elle tombe pas sur la tronche du môme en bas, le petit joueur d'accordéon à casquette. Libéré, mes deux oreilles ont écouté le poisson rouge de l'aquarium, qui était content d'être tout seul, qui faisait juste un peu la gueule, ou tout comme. Énervé par un bon Dieu que je trouvais bien trop dangereux, j'ai balancé ma vieille Bible par la fenêtre. Comme je suis un garçon normal, je me suis dit un cardinal. Avec un peu de bol, cela mange en pleine tête. Libéré, enfin mon âme, étalée, se nichée au fond de l'aquarium, dans une eau limpide et claire, loin des centrales nucléaires, loin des hommes. Énervé par ces gauchos, devenus des patrons bien gros, j'ai balancé mon journal par la fenêtre. Comme je suis un garçon réglo, j'ai visé le caniveau, sûr d'y retrouver le rédacteur en chef. Libéré, enfin ma tête a rejoint le scaphandrier de l'aquarium, qui cherche un trésor planqué sous les cailloux bariolés. Pauvre bonhomme, le scaphandrier de l'aquarium sur la cheminée, je suis un peu le poisson rouge et c'est chouette. Je cherche un trésor planqué, l'amour et la liberté, sous les cailloux bariolés de la planète. Libéré, enfin ma terre, des curés, des journaleux, des militaires, de tous les preneurs de tête qui provoque sous ma fenêtre ma colère. Thank you.
Nous sommes de retour dans l'émission Les yeux grands ouverts, où ce soir le thème est les médias. Alors c'est 102.2, hein, la station de Radio Canu, il faut le repréciser, mais de toute façon si vous m'écoutez c'est quelque part, vous le savez. Alors on va approfondir un peu tout ça. Tout d'abord je voudrais redonner un peu les bases de l'émission, enfin les bases, les petits contacts qu'il y a pour l'émission. Donc on a une page Facebook qui s'appelle Les yeux grands ouverts. Vous la cherchez sur Facebook, vous allez la trouver. Et j'expliquais tout à l'heure, donc il y a une boîte mail qui s'appelle aussi les yeux grands ouverts @laposte.net. Donc quand vous écrivez les yeux grands ouverts, vous écrivez en mettant tout au pluriel, hein. Grand et ouvert avec un S. Ce sera comme ça que vous nous retrouverez. Voilà, donc il y a la page Facebook. Pour ceux qui veulent vraiment connaître ce qui se passe en détail dans l'émission, ce qui est nécessaire de faire sur le réseau social, c'est de cliquer sur j'aime. Parce que si vous allez juste voir, à moins que vous alliez voir la page fréquemment, mais si vous ne cliquez pas sur j'aime, en fait, ça s'affichera pas dans votre fil d'actualité, donc vous ne saurez pas. Je sais pas, de fera du prosélytisme, je m'en fous si les gens aiment ou aiment pas, peu importe. Mais c'est juste pour avoir le fil d'actualité qui s'affiche, il faut cliquer sur j'aime. C'est un peu mal foutu, mais c'est comme ça. Alors, si jamais vous voyez, comme je disais tout à l'heure, vous voulez faire parvenir des infos, il n'y a pas de souci, que ce soit sur la boîte mail, sur Facebook, suggérer des musiques ou vous avez chopé des infos qui vous ont intéressé, dont vous pensez qu'elles pourraient m'intéresser aussi, il n'y a pas de problème, faites tourner. Alors, on va poursuivre donc cette vaste entreprise de dénigrement de certains médiacrates. On pourrait donc m'accuser de tirer sur des ambulances, c'est pas totalement faux. Car pour beaucoup de ces personnes-là, ces personnes-là, elles sont plus vraiment crédibles depuis longtemps. Mais je vais tenter quand même de m'attaquer à un nouveau médiacrate encore plus fort qu'Alain Duhamel. Enfin, encore plus fort, encore plus réputé. Il s'agit de Jean-Pierre Elkabbach. Personnage qui, lui aussi, à la faveur des médias, et l'a même eu pendant des années des hommes politiques. Puisqu'il a été, même si au départ il était vraiment pas fan et qu'il s'entendait pas forcément bien parce que il donnait pas toujours la parole à François Mitterrand à l'époque où il était pas président et que les interviews s'étaient menées de manière particulière, Mitterrand s'en plaignait. Sur la fin de sa vie, ils étaient très proches apparemment. On sait que donc il a été souvent sollicité par les présidents de la République, ce personnage, dernièrement, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'affaire Sarkozy qui était mise en examen, quand il a été s'expliquer sur TF1. Les deux journalistes qui sont allés l'interviewer, c'est Gilles Boulot, celui qui présente le journal TV de 20h, et Sarkozy a fait venir Jean-Pierre Elkabbach, son grand pote, pour l'interviewer et pour surtout ne pas le mettre trop en danger et le laisser parler. Et en plus, ce personnage, Jean-Pierre Elkabbach, enfin après ça c'est un jugement personnel que je fais par rapport à lui, il a une façon tout à fait particulière de poser des questions. Il essaye de feindre une espèce d'impertinence en posant les questions sur un ton sec, un peu violent, alors qu'en fait, les questions qu'il pose, elles n'ont aucun fond. Elles ne sont pas spécialement dérangeantes. Ou alors, c'est dérangeant quand il a des mecs de gauche en face de lui, et là, il se fait plaisir et il les défonce. Alors lui aussi, il monopolise la parole depuis, je sais pas, 40, 50 ans, c'est difficile de quantifier, je sais pas exactement quand c'est il a commencé. Entendons-nous bien, par contre, le problème, c'est pas qu'il soit âgé, on s'en fiche quelque part. Des gens âgés, il y en a des extrêmement compétents, le problème, c'est que c'est les connivences, parce que forcément, quelqu'un qui traîne longtemps avec ses personnages politiques finit par les connaître, et ça se déroule forcément d'une manière différente quand il les interroge. Et puis c'est surtout que depuis 50 ans, on a la même personne qui interroge les politiques, c'est quand même un peu dommage. Il faut savoir que cette personne, Jean-Pierre Elkabbach, il est administrateur du groupe Lagardère. Hein, vous savez ce que c'est un administrateur, je ne sais pas si vous savez, mais bon, ça veut dire qu'il a un pouvoir de décision au sein du conseil d'administration. On sait qu'il est administrateur, on ne sait même pas s'il n'a pas des parts dedans, peut-être qu'il en a, ça c'est pas précisé. En tout cas, il a des intérêts particuliers dans le groupe qui gère Europe 1. En même temps, il donne des interviews aux hommes politiques. C'est intéressant. Tout à l'heure, on évoquait la connivence donc, qui peut exister dans un média privé et entre un chef d'entreprise, un administrateur ou tous les administrateurs, les investisseurs, mais aussi les journalistes. Alors, je vais prendre soin de vous l'illustrer à l'aide d'un un nouveau passage du film Les Nouveaux Chiens de Garde, encore. On passera sur d'autres documentaires lors des prochains numéros où on parlera aussi des médias. Mais là, ce soir, c'est vraiment sur Les Nouveaux Chiens de Garde qu'on va s'attarder. Donc il faut songer que cet homme est intervieweur politique en quotidienne. Enfin, il y était il y a 2 ans, il faisait toutes les interviews politiques le matin. mais qui le fait encore avec son pote Sarkozy, comme j'expliquais. Alors le document que je vais vous préciser, que je vais vous passer, il est un petit peu long, il met en valeur les connivences, mais aussi la fallacieuse idée selon laquelle concurrence entre plusieurs groupes égale information libre. Avec El Kabash cirant les pompes de son patron, vous allez écouter, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Une explication que je vais étayer au sujet des médias et de leur appartenance. En fait, le document, il est lancé par une intervention de François Bayrou dans le journal de Claire Chazal, et il s'accroche un petit peu sur le fait que Bayrou trouve qu'il y a des connivences entre l'argent et les médias et que ça pose problème, puisque lui pendant un bon moment était privé de temps de parole à cause de ça. Et ensuite on va un peu entendre ce qui se passe entre El Kabash et Michel Drucker sur le plateau de France 2, où il va y avoir le patron de Lagardère qui va se pointer. El Kabash va lui cirer les pompes, et ensuite le documentaire va bien nous expliquer pourquoi c'est difficile d'échapper à ces médias-là et à ces médiacrates-là, et aussi aux gens qui possèdent les médias, en donnant plein d'exemples. Alors, nous allons y aller en avant, Guingamp.
Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir base sur l'autre, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias.
Ce journal de 20 heures est un véritable événement. Pour la première fois depuis la privatisation de TF1, un élu de premier plan attaque en direct l'indépendance de la chaîne. Et ce n'est pas la connivence entre journalistes et pouvoir politique que François Bayrou dénonce, mais la dépendance des principaux médias français au pouvoir économique.
Je puis vous assurer qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels, sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec l'État.
Face à un membre de la majorité politique qui a privatisé sa chaîne en 1987, Claire Chazal hausse le ton. Il n'est pas question pour la star du journal de TF1 de laisser ternir la réputation du groupe Bouygues, son employeur. Et puis après tout, elle n'est pas la seule journaliste à travailler pour un grand groupe industriel. Prenons un exemple, sur une chaîne du service public cette fois. Ce jour-là, c'est la rencontre entre deux autres grandes stars du paysage médiatique. La majorité des Français n'a pas connu le divertissement sans l'un et l'information sans l'autre. Ce jour-là, Michel Drucker, ancien et futur employé du groupe Lagardère, consacre son émission à Jean-Pierre El Kabash, ancien et actuel employé du groupe Lagardère. Et qui décident-ils tous les deux d'inviter ? Arnaud Lagardère, leur patron.
Arnaud, je vous remercie infiniment parce que on vous voit très très peu. Vous êtes un homme discret qui se montre jamais. Vous dites que ce n'est pas mon rôle d'être devant les caméras. Absolument. Vous êtes venu par amitié pour Jean-Pierre, qui a été le conseiller de votre père et que vous avez connu du temps de votre père. Un petit mot quand même. Ce que représente le groupe Lagardère, qui est une entreprise leader dans le monde des médias de la haute technologie, parce que le public ne le sait pas, mais il a pratiquement affaire quotidiennement au groupe, qu'il lise un livre, qu'il lise une revue de télévision, qu'il écoute la radio, qu'il prenne un avion.
Je vous remercie, ça va être bien repris dans le Canard enchaîné.
C'est pas un peu ça ?
C'est un peu ça, mais il ne faut pas trop le dire. Non, oui. Très sérieusement. C'est d'abord une fantastique aventure humaine. Hein. C'est à peu près 250 000 personnes dans le monde.
Arnaud Lagardère a raison de taper sur les doigts de Michel Drucker. Le groupe qu'il dirige est une fantastique aventure humaine et certainement pas un monopole qui envahirait nos vies. Pour le prouver, nous allons démontrer qu'il est parfaitement possible de passer une journée sans le groupe Lagardère. Prenons un Français moyen, Monsieur Lambert. Chaque matin, Monsieur Lambert se réveille au son d'Europe 1, la principale radio du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir d'écouter Radio Classique, la radio du groupe LVMH. Sur le chemin du travail, M. Lambert peut acheter son journal dans l'un des 1000 points de vente du groupe Lagardère. Mais il peut aussi préférer un gratuit du groupe Bolloré. Au bureau, la collègue de M. Lambert peut s'informer en surfant sur un site du groupe Lagardère ou en feuilletant un magazine du groupe Lagardère. Mais M. Lambert, lui, peut lire le quotidien du groupe Dassault. En rentrant chez lui, M. Lambert peut acheter l'un des 20 magazines du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir un magazine du groupe Pinault Printemps La Redoute. À la maison, M. Lambert peut zapper sur l'une des 8 chaînes du groupe Lagardère. Mais il peut aussi regarder le 20h de TF1 du groupe Bouygues. Ainsi, passer une journée sans le groupe d'Arnaud Lagardère a un prix. Celui de fréquenter une poignée de personnages du même acabit. Tous dirigeants de grands groupes industriels ayant investi dans les médias. Pour ces groupes, tous liés à des marchés publics, vendre de l'information a un double intérêt. Disposer d'un levier politique évident et faire des profits.
Par particularité française, nous avons de grands groupes médiatiques qui vivent des marchés publics. C'est béton et canon, si on peut dire, Bouygues et Lagardère. C'est une situation qui est évidemment une situation, disons rapidement, malsaine du point de vue des médias, mais par contre très intéressante pour les groupes en question parce que ça leur permet de disposer de leviers d'influence politique particulièrement corrupteurs. La concentration et la financiarisation des médias n'est pas sans conséquence. Évidemment, tout ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. Comment comprendrait-on l'appauvrissement de l'information si on ne tenait pas compte d'une politique systématique de réduction des coûts qui n'a pas simplement pour objectif, comme c'est encore le cas en presse écrite, notamment dans la presse écrite nationale, d'essayer d'éviter les déficits et d'être modestement rentable, c'est-à-dire de pouvoir investir un peu et payer les salariés, mais d'être profitable, c'est-à-dire de dégager dans les secteurs des médias des taux de profit qui sont équivalents à ceux que l'on peut espérer dans les secteurs de pointe de l'économie.
Claire Chazal, je ne critique pas Nicolas Sarkozy en rappelant la proximité qui est la sienne avec des responsables économiques extrêmement puissants. C'est une proximité qui est affichée, assumée et même étalée dans les journaux, comme vous le savez.
Ça n'empêche pas.
Le candidat François Bayrou avait quelques raisons de se plaindre de l'amitié des grands industriels propriétaires de médias avec le candidat Nicolas Sarkozy. Le 6 mai 2007, pas moins de 4 de ces grands patrons de presse n'hésiteront pas à s'afficher au Fouquet's pour fêter la victoire du nouveau président de la République.
La proximité connue et affichée entre Nicolas Sarkozy, notre cher président de la République, et les grands propriétaires des médias ne va pas s'en poser problème. Elle est évidemment éminemment corruptrice. Mais ce serait peut-être une erreur de s'arrêter aux amitiés, à la fréquentation du yacht de Bolloré, au copinage en tout genre, parce que ce copinage repose avant tout, sur la convergence des options idéologiques et politiques. C'est parce qu'ils sont d'accord sur le fond de la société qu'ils veulent construire, sur les intérêts économiques à défendre, que les amitiés peuvent être relativement efficaces.
Moi, je crois que les intérêts des gens qui dirigent de fait ce pays sont largement au-delà de la seule personne Sarkozy. Sarkozy ne tient qu'autant qu'aujourd'hui il peut apparaître comme celui qui va garantir au maximum les intérêts financiers, les intérêts idéologiques des dominants. Mais si demain, pour une telle ou telle raison, il apparaît comme plutôt gênant, ces gens changeront de cheval comme ils changent de chemise, il n'y a pas de problème. Et croyez-moi, l'intérêt, c'est qu'il y a des candidats, hein, des candidats à droite, bien entendu, mais il y en a aussi beaucoup à gauche.
Alors maintenant, un petit mot sur votre voisin, Jean-Pierre, qui était conseiller de votre père. Vous l'écoutez tous les matins, Jean-Pierre ?
Non seulement je l'écoute, mais parfois je le vois le matin.
Vous venez de temps en temps lire bonjour.
Ce qui est un spectacle aussi en soi.
Oui, il vient à 8h moins 15, moins 10, puis après on bavarde, etc.
Les téléspectateurs de Vivement Dimanche sont tout à fait prêts à croire Jean-Pierre Elkabbach. Quand le grand patron d'un groupe de 250 000 employés passe le matin à la radio dont il est le propriétaire, c'est pour bavarder. Et en aucun cas pour donner des directives. Jean-Pierre Elkabbach et Michel Drucker tiennent à l'affirmer. Pour les grands industriels qui les emploient, l'indépendance des journalistes est quelque chose de sacré.
L'indépendance, je retrouve chez lui avec en plus ses qualités. Sans faire de baratin parce que tu es là, toi c'est vrai, tu t'es imposé comme avec une métamorphose soudaine, presque sous mes yeux, en un grand manager européen. Et ce qui est extraordinaire, parce que je l'ai vu moi dans 2-3 fois dans des négociations, hein, je peux le dire, il est concentré, il est immobile, on se demande s'il est ailleurs, il est patient, et à un moment où on s'attend le moins, pchit, il fonce, il a l'initiative stratégique de mouvement. Et en plus, il peut même surprendre en changeant cette stratégie, je le dis à ceux qui vont négocier avec lui.
Donc, voilà, c'est non, enfin, il ne faut pas leur dire ça. Non, j'ai bien fait de venir, hein, Michel, j'ai bien fait de venir.
C'est bien qu'il vienne le matin parce que...
En effet, Arnaud Lagardère a bien fait de venir. Et il faut au moins le talent d'un grand journaliste pour déclamer pareil éloge de son patron.
Ouais. Il a l'initiative stratégique de mouvement. Et en plus, il peut même surprendre en changeant cette stratégie.
Voilà pour Monsieur Elkabbach. et pour d'autres d'ailleurs. Donc vous avez entendu aussi l'avis de deux intellectuels au milieu de tout ça. Il y en a un qui s'appelle Michel Naudy et l'autre, je ne me rappelle plus du nom, je suis désolé, j'ai les noté nulle part. C'est quand même assez explicite, je trouve. Alors, pour l'exemple qui est donné par Michel Naudy, il explique que les grands patrons de presse qui ont dîné avec Sarkozy au Fouquet's le soir de son élection, au final, ils s'en fichent complètement de Nicolas Sarkozy, que le jour où il y aura un problème, parce que ce documentaire, il a quelques années, donc c'était encore Sarkozy qui était président, le jour où il y aura un problème, bah, les patrons le lâcheront très très rapidement, et ils en auront plus rien à fiche de lui, et ils passeront à autre chose. On s'aperçoit que c'est exactement ce qui s'est passé, depuis que monsieur a traîné dans des affaires un peu spéciales, même si on ne sait pas encore s'il est coupable de quoi que ce soit, mais qu'apparemment, il y a des petits problèmes. Et ben, tout le monde l'a lâché, et au final, on n'entend plus parler de lui, et on ne le voit plus dans les médias, ou alors que très rarement. Et donc je trouvais que ce passage du film en particulier, il était vraiment explicite par rapport à la journée que passe Monsieur Lambert. Ils expliquent le français lambda qui se balade, qui part le matin, qui se lève, qui va au travail, etc. Et qui est confronté à plein de médias. Ils prennent l'exemple donc d'un tas de médias qui appartiennent à des grands groupes industriels que l'on peut reconnaître dans le documentaire parce qu'il y a l'image. Forcément, là, c'est difficile étant donné que vous avez que l'audio. Ils parlent par exemple, quand ils parlaient des points de vente, ils parlent des points relais qui sont dans les aéroports ou à plein d'endroits. Ça appartient à Lagardère pour donc ces revendeurs-là. Ils parlaient du Figaro quand ils parlaient du quotidien de Serge Dassault. Quand il parlait des sites internet, il parlait de Doctissimo, qui aussi appartient à Lagardère, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous invite tout simplement en fait à regarder le documentaire, ce sera carrément plus explicite. Vous verrez comment est construite la journée de ce personnage et tous les médias auxquels il est confronté, les magazines qui appartiennent tous à des grands groupes. L'objectif, c'est pas forcément, après ça c'est chacun son point de vue, de dire que la propriété privée c'est forcément un mal, mais de dire que quand la propriété privée et les grands patrons possèdent la plupart des médias, forcément pour la pluralité ça pose un problème. Quels intérêts d'ailleurs aurait-il à laisser parler certaines personnes qui ont des choses à dire qui vont totalement à l'encontre de leurs intérêts, qu'ils soient économiques ou même idéologiques? Alors ouais, je vous disais que je vous invite vraiment à regarder ce documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde de Gilles Balbastre. Il a même été nominé pour les Césars dans la catégorie du meilleur documentaire. Bon, évidemment, il a pas gagné, hein. Ça aurait été trop beau. Alors vous le chopez comme vous voulez, hein. Il doit être attrapable, je pense, en téléchargement, même si c'est illégal, etc. Mais c'est quand même mieux de l'acheter directement, par exemple, sur un site genre celui du Monde Diplomatique, parce que des sites dans ce genre-là, pour garantir l'indépendance, ça sert à rien d'aller l'acheter sur Amazon, par exemple. Autrement, à certains moments, il me semble qu'il est visible aussi en intégralité sur Internet, chez les diffuseurs genre Dailymotion et YouTube. Bon, comme il y a des droits qui sont un peu protégés par rapport à ça, de temps en temps, ils sont virés et puis vous arrivez à le rechoper derrière quelques semaines après. Alors, un dernier petit mot sur les médias avant tout ça. Un bon mot de Noam Chomsky, que certains ont peut-être trouvé excessif. Enfin, pas Noam Chomsky, parce que... peut-être, en fait, ce que vous voulez après tout, mais la phrase, peut-être que certains vont la trouver excessive, mais je les invite tout de même à y réfléchir et à aller voir des interviews de lui sur Internet aussi pour comprendre ce qu'il appelle la fabrique du consentement, et même le documentaire complet, vous pouvez vous le taper, il n'y a aucun souci, ça sera toujours bon à prendre. Alors ce grand intellectuel dit « La propagande est à la démocratie ce que la violence est à une dictature. » Maybe, perhaps. Alors bien, pour les médias, c'est fini pour aujourd'hui. Dimanche prochain, on va approfondir. On peut parler de pluralité. Je pense qu'on va continuer un peu là-dessus. On a un peu abandonné les détails techniques où on parlait des financements en général des médias. Là, je pense que c'était un petit peu lourd à supporter pour ceux que ça intéresse pas spécialement. Là, on va vraiment donner des exemples concrets avec des grands journalistes qui sont interviewés. Je sais que j'ai plusieurs sources à prendre. Je vais donner un peu mon avis à chaque fois aussi. Il y a notamment un super documentaire de Pierre Carl qui s'appelle DSK Hollande, etc., où on voit des journalistes qui sont envoyés interviewer d'autres journalistes sur la manière qu'ils ont eu de traiter la campagne présidentielle de 2012. Et là, on va s'apercevoir que l'orientation que donne un journal, même si tous les journaux ont une orientation, ce qu'on appelle une ligne politique, ils ne l'assument pas. Ils essayent de faire croire que, bon, ils le font un peu, mais comme ça, vite fait. Et au final, ils vont être un peu démasqués et coincés parce que les journalistes qui sont en phase 2 et qui sont, eux, un petit peu plus probes vont leur faire remarquer qu'ils ont une manière de traiter l'information très particulière qui, en fait, l'oriente complètement. Ils objectent même carrément des faits. Ou bien d'autres choses. Alors c'est fini pour aujourd'hui, on va se passer un petit morceau en rapport avec tout ça, hein. Bon là c'est de l'anglais donc pas forcément tout le monde qui comprend, mais moi je comprends pas de tout. Ce morceau par contre il est un peu plus véhément que le petit morceau de Renaud de tout à l'heure, hein. Celui-là, le morceau de Renaud, il était plutôt cool. Comment vous décrire alors le groupe qui va faire ce petit morceau là? C'est comme si Led Zeppelin avait piqué les guitares de Korn et demandé à Zach de la Rocha de Rage Against the Machine de venir chanter dans leur groupe. Alors ça s'appelle, le groupe s'appelle Limp Bizkit. Alors là l'album c'est un album tout particulier qu'ils ont sorti. Il est sorti en 2005 où ils avaient basculé dans un registre super intéressant, un album très politique. L'album s'appelle The Unquestionable Truth. J'essaye de prendre un super accent anglais, c'est pas évident. Mais malheureusement, les ventes, comme elles n'ont pas forcément décollé, et ben, elles n'étaient pas du tout au rendez-vous même. Ils sont rentrés au bercail et ils ont repris leurs bonnes vieilles habitudes de faire de la musique un peu plus commerciale, un peu moins audacieuse. Et c'est un petit peu dommage. Donc ce morceau s'appelle The Channel. Et après, on enchaîne directement avec le billet d'humeur. Alors attention, pour ceux qui ne sont pas spécialement fans de rock un peu péchu, ça va vous décoller les oreilles, je préfère vous prévenir tout de suite.
As long as you know you can keep me here, for whenever you get lost. you need an excuse to cover up your attention. Did I express how I'm feeling? You hate that you relate to this shit. You hate that I'm a tick, I'm a motherfucking tick. You're fighting hard to forget. This is the channel I'm down into. I already know you I'm down into. This is the channel.
C'est dur, même lorsqu'on y est préparé. Depuis très longtemps, on le savait malade, en déliquescence. Certains ont cru en lui. Oh non, pas qu'ils le pensaient irréprochable, mais c'était leur espoir d'arranger les choses. Il est né il y a longtemps, c'est vrai. Il était pourtant si frais et dynamique au départ. Il donnait des idées, des rêves, de l'envie, de l'espoir aux plus démunis. Au départ, il ne s'appelait pas comme cela, mais il avait réussi à fédérer du monde. Il a fait son bonhomme de chemin, malgré les soubresauts, a vécu des séparations, mais en 1981, il était au sommet. Puis il est tombé sérieusement malade. Comment ? En décidant d'entrer dans le marché. Et de suivre ses amis européens qui étaient aussi malades que lui. Ils souffraient tous de libéralisme aigu, contaminé par un certain virus nommé Thatcher Reagan. Dans les années 2000, contre ses principes, mais sous la pression de ses amis européens, il décide même de trahir ses proches en signant l'arrêt de mort de ses organes vitaux, qui étaient à la base de son idéologie, les services publics. Il changera même tous ses principes en inscrivant dans ses statuts qu'il accepte la mondialisation libérale. Il a subi les outrages du temps, sa santé s'est dégradée de plus en plus, et il est mort cette semaine en disant « J'aime l'entreprise ». Adieu Parti Socialiste, qui n'a de socialiste que le nom. Adieu à vous les idées de gauche dans un grand parti. Alors pour respecter ta mémoire, et pour ne pas se soulager sur ta tombe, nous te nommerons désormais Parti de la Rose, ou Parti Solferino, ou Parti à plat ventre devant le MEDEF, ou Parti Vaseline, celui qui aide le peuple à se faire en... Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue à la remise des prix inventée par CP Productions et écoutée dans le monde entier. J'ai nommé la remise des prix des plus grands laquais de l'année. Nous récompensons ici les meilleurs larbins au service du pouvoir de l'argent. Et ce soir, nous allons remettre un prix exceptionnel. Et voici maintenant le nom du vainqueur. Dans la catégorie « Je me suis trompé de parti politique au départ de ma carrière, mais personne ne me l'a dit, je suis de droite dans un parti de gauche et quand je rencontre Pierre Gattaz, il repart avec les fesses toutes propres et au passage, si je fais quelques déclarations racistes, c'est tout bénef, mais je suis de gauche, je vous le jure sur la tête des canards, pour faire un canard laqué. Qu'est-ce qu'on rigole ? Le vainqueur est... Manuel Valls. Bravo, hein, bravo, bravo, bravo. Manuel Valls, qui s'est illustré dans ce magnifique rôle, notamment celui où il dit qu'il veut plus de blancs dans la ville de Vitry, ou que aussi que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer en France. Il s'est aussi illustré dans « Je veux remettre en question les 35 heures » ou dans « Je donne de l'argent au patron car les pauvres, ils n'en ont pas assez ». Mais là, il obtient son trophée grâce à sa dernière performance aux universités d'été du MEDEF, où il a fait des papouilles à M. Gattaz et a dit « La France crève des postures idéologiques et j'aime l'entreprise ». Un petit mot, Manuel Valls, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les entrepreneurs, la France a besoin de vous.
Ah non, 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 en fait, tais-toi. Nous allons donc lui remettre ce trophée magnifique, la laisse d'or. Ouh là là, ça c'est un gentil chien de garde, ça. Hein, allez, je rappelle que l'ancien tenant du titre était David Pujadas pour son interview de Xavier Mathieu de Continental au journal de 20h de France 2. Quel duo d'hommes de vertu. Allez, dégage maintenant, tu te barres. Au revoir, à bientôt, bonsoir, mesdemoiselles, messieurs, tout ça.
One, deux, tres. Le tango des élus, parole de Renaud Séchant, musique de Renaud Séchant, interprétée de Renaud Séchant et tous ses musiciens, chanson courte mais suffisante. Et dire que chaque fois que nous votions pour eux, nous faisions taire en nous ce cri, ni Dieu ni maître, dont ils rient aujourd'hui, puisqu'ils se sont fait Dieu, et qu'une fois de plus, nous nous sommes fait maître. Et puis c'est tout. Moi je le fais mieux. Et alors du con. Ah bon?
Et voilà, petit craquage, hein, excusez-moi, j'avais envie ce soir de mettre un peu en scène tout ça, c'était sympathique. Donc c'était mon billet d'humeur, enfin j'ai pas vraiment expliqué quelle était mon humeur, mais je suppose que la manière dont j'ai mis en scène tout ça, vous avez compris dans quel genre d'humeur je baigne par rapport à ce qui se passe avec le Parti Socialiste et surtout Manuel Valls, je sais pas pourquoi, mais particulièrement Manuel Valls. Alors c'est terminé pour ce soir parce qu'on a dépassé l'heure là, en plus j'ai commencé un petit peu à la bourre parce que j'ai eu du mal à me caler. J'espère que vous me pardonnerez pour ce début d'émission qui était un petit peu confus, j'étais un peu en galère avec la bande audio, donc maintenant comme vous avez certainement compris, à chaque fois que je parlerai je ne laisserai pas du vide derrière moi parce que je me suis rendu compte que ça pouvait faire un peu lourd et que ça fait un peu vide et même pour moi c'est pas évident. Je préfère avoir un petit casque sur les oreilles avec une petite nappe et parler avec ça, je pense que même pour vous au niveau auditif, ça doit être plus agréable et plus sympathique. Alors, les yeux grands ouverts, comme je disais, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on finira avec les médias. On finira pas d'ailleurs, on continuera parce que je pense qu'on en aura pour un peu plus de deux émissions. Parce que c'est un sujet qui est très lourd à traiter et surtout très long. Parce qu'il y a des médias, il y en a énormément et des très différents. Alors voilà. Ensuite, il y a la boîte mail de Les yeux grands ouverts, comme je disais tout à l'heure, si jamais vous avez des choses à dire, des messages à faire passer, des suggestions même sur des sujets, sur des musiques, sur tout ce que vous voulez, donc c'est lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, comme j'expliquais tout à l'heure, vous mettez tout au pluriel. Il y a aussi la page Facebook, pareil, tout est au pluriel, les yeux grands ouverts sur Facebook. Et puis voilà, pour ce qui est de notre émission, qui sera encore de 23h à minuit la semaine prochaine. Je voulais aussi ajouter un petit mot, parce que comme vous avez certainement dû l'entendre pendant le mois de juillet, je rappelais à chaque fois qu'il fallait signer la pétition pour l'émission de Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, qui était dégagé de l'antenne de France Inter. Il y a l'équipe de Daniel Mermet de Là-bas si j'y suis qui a une tranche horaire le samedi de 16h à 17h. Je ne me rappelle plus exactement du nom de l'émission, donc c'est Daniel Mermet est parti, en revanche toute l'équipe est restée avec lui, est restée sur l'antenne, Guy Vanctil, Monsieur Chao, Antoine Chao qui réalisait l'émission aussi, ils ont une émission donc sur Inter de 4h à 5h le samedi, je me répète un peu, excusez-moi. Par contre, en ce qui concerne Là-bas si j'y suis, on a appris dans la semaine, je crois que c'était mercredi, puisque Daniel Mermet a fait une conférence de presse, qu'il avait l'intention de continuer l'émission mais sur internet. Alors d'ici là, il risque certainement d'y avoir besoin de souscription, puisque s'il veut continuer à avoir un média libre, c'est certainement pas par la pub qu'il va accepter de se faire financer. Alors il va entamer des souscriptions. Je pense qu'il sera à la fête de l'humanité, je crois que c'est le 12, 13, 14, pour demander des souscriptions, aussi pour commencer à faire une émission. D'après ce que j'ai compris, dans ses projets, il a l'intention de faire un 7-9. Alors peut-être pas un 7-9 tous les jours, mais essayer de remettre un petit peu du 9 dans le 7-9, puisqu'on entend tous les 7-9 qu'il y a sur toutes les radios, ils se ressemblent quasiment tous. Voilà quelles sont les intentions du papa de l'émission, là-bas si j'y suis. Voilà pour ce soir, alors j'espère que l'émission vous a plu, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez tenu jusqu'à cette heure-ci et que vous m'écoutez encore, je vous dis un grand merci, je vous remercie beaucoup. Et puis ben bonne nuit si vous allez vous coucher, et puis si la soirée commence pour vous, et ben bonne soirée. Bonne fin de soirée, salut salut.